Je vais vous parler pendant peut-être une dizaine de minutes d'un pamphlet qui a été publié aux éditions Rupture. C'est un texte qui a été traduit par Louisanne Leblanc, puis qui a été écrit par le collectif Réinvention. Le titre, c'est Les barricades renversées, la rébellion de Oaxaca, ses victoires, ses défaites et ses répercussions au-delà de ses frontières. Donc, tout à l'heure, on avait une entrevue avec Émilie Breton qui nous parlait des apatistes, qui est une organisation militaire sous le contrôle du commandant, ben pas sous le contrôle, mais sous la coordination, parce que le sous-commandant Marcos est le dirigeant, mais il est quand même redevable aux populations, en fait, là. Donc, le sous-commandant Marcos dirige une armée qui s'appelle le EZLN, qui est une armée de guerrieros qui ont pris le contrôle des villes du Chiapas en 1994, puis après ça, ont entamé un processus un peu moins ouvertement militaire. Donc, dans la province voisine de ce que je viens de parler, c'est le Chiapas, donc la province voisine au sud du Mexique, c'est le Oaxaca, O-A-X-A-C-A. C'est une autre province où est-ce qu'il y a énormément de pauvreté dans les populations autochtones. Et il y a là-bas des syndicats, comme par exemple le syndicat des professeurs qui est très fort, surtout où est-ce que l'éducation dans ces communautés-là sont les seules sources de financement. Comme les écoles, c'est parfois les principales sources de financement pour des communautés, et souvent l'espoir de s'émanciper de cette condition économique parfois très misérable, hein, qui est celle de l'ostracisation économique, du racisme que sont victimes les peuples autochtones au Mexique en général, mais je pense que plus particulièrement, ils s'organisent dans des groupes au sud du Mexique. Donc, l'histoire de la rébellion de Oaxaca, pour commencer, faire un topo, c'est, comme on en parlait tout à l'heure à l'entrevue, une grève qui a commencé pour revendiquer un investissement en éducation par le syndicat des professeurs. Le gouvernement refusait de répondre à leurs demandes, donc pour augmenter leurs moyens de pression, en fait, ils ont fait un planton, c'est une occupation d'un carré au centre-ville, dans le fond. Là, la police a rentré dans la foule, comme l'habitude du gouvernement mexicain le veut, pour qu'il y ait des personnes qui se fassent réprimer. Je parle de tradition. On n'aurait qu'à regarder l'histoire en 1968, pendant les Olympiques de 1968 à Mexico, la capitale du Mexique. Mais il y a près de 10 000 étudiants et étudiantes qui sont faites massacrer en 1968 au Mexique, juste parce que le gouvernement mexicain voulait pas avoir de contestation puis de perturbation durant les Jeux olympiques. Donc, ouais, je pense qu'on serait quand même légitime de parler que c'est une tradition au gouvernement mexicain de massacrer les populations. Cela dit aussi, on a découvert des fosses communes à Oaxaca, où est-ce que, dans le fond, c'est le résultat de ce que je suis en train de vous parler de l'histoire, où est-ce qu'il y a une grève qui est déclenchée. Donc, après que l'armée ait foncé dans la population qui occupait la place centrale, la ville, la population qui est le syndicat des professeurs, il y a eu des barricades qui ont été érigées et une organisation qui s'appelle l'Assemblée populaire de Oaxaca qui a commencé à organiser la population sous forme d'assemblée. L'Assemblée, dans le fond, ça mettait vraiment de l'avant la souveraineté des membres. Mais ce que j'ai appris en lisant le livre le pamphlet Les barricades renversées aux éditions Rupture, qui est la maison d'édition de la NEFAC, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que il n'y avait pas d'unanimité ou d'une autonomie des luttes qui pouvait être perçue de l'extérieur. Parce que le mouvement de la PAO, Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, qui est né suite à la répression, comme l'image le veut, le démontre dans le pamphlet, c'est celle d'un feu de pyrotechnie, dans le fond, qui part avec une flamme à la base, qui monte super rapidement et qui éclate dans les airs pour laisser tomber au sol des morceaux flambants, dans le fond. Donc, ce qui s'est passé avec la peau, c'est qu'au départ, il y avait une plus grande autonomie, une plus grande initiative, en fait, où il y avait plus de ralliement autour d'une cause, mais plus le temps a avancé, plus il y avait un certain centralisme et des rivalités à l'intérieur même de la peau. Comme par exemple, la plupart des porte-paroles de la peau étaient des staliniens, membres du Front populaire révolutionnaire, une organisation contrôlée par le Parti communiste mexicain ML. Ces staliniens-là ont, dans le fond, vraiment mis de l'avant qu'il fallait s'organiser pour être une révolution du prolétariat, tandis qu'il y avait vraiment d'autres éléments dans la peau qui étaient qui avaient plus ou moins leur place à cause que, justement, les staliniens noyautaient, à ce que je peux en comprendre, le pamphlet noyautait un peu l'instance de la peau. Donc, en lisant ce pamphlet-là, on peut comprendre que dans les associations, dans les groupements populaires qui peuvent, à première abord, avoir l'air autonomes, tu sais, c'est comme tout le monde est uni, bien non, il reste quand même des personnes qui appliquent leur programme en faisant du noyautage d'assemblée. Il y a eu des critiques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur la peau, comme par exemple « This is what recuperation looks like », un texte qu'on peut retrouver sur LIBCOM, Libcom, dans le fond, qui est un site communiste libertaire, qui critique justement la récupération du mouvement par les staliniens, entre autres. Il y a aussi Raoul Van Eghem qui a écrit un texte qui, à propos de la peau, toujours, il faisait référence à la commune, dans le fond, il a lancé l'appellation la commune de Oaxaca. Donc Raoul Van Eghem, qui est un situationniste notoire, qui est situationniste dans le fond, c'est un mouvement qui est né de sources artistiques, littéraires, mais avec des tendances autogestionnaires libertaires. Donc, Raoul Van Eghem, qui est un peu une figure un peu plus populaire, parce qu'il a écrit relativement beaucoup de livres. Donc, une autre chose qu'on peut apprendre aussi en lisant les barricades renversées, la rébellion de Oaxaca, dans le fond, c'est que malgré ce qu'on peut vraiment en croire, c'était pas si pacifiste que ça. Dans le fond, il y avait des luttes contre les forces policières à des moments assez cruciaux. Il y avait des groupes de bazuqueros, qui est un nom qui a été donné à ceux qui utilisaient des longs tubes de plastique pour projeter des feux d'artifice. Puis, dans le fond, ils lançaient des feux d'artifice comme ça sur les policiers pour brouiller partiellement leurs slaves de gaz lacrymogène qui étaient dirigés sur les manifestants puis les manifestantes. Il y a eu aussi des autobus qui ont été incendiés et dirigés vers les forces de l'ordre. Dans le fond, ces autobus-là étaient aussi nommés kamikazes. Donc c'était pas si pacifiste que ça, malgré ce qu'on peut en croire. Dans le fond, je pense que c'est quand même une certaine forme de défense qui est en rupture avec le pacifisme qui est un peu dans le style Gandhi, donc c'est pas grave si je meurs. Voilà. Donc, une autre chose aussi qu'on peut apprendre, c'est que il y a une tradition, en fait. On peut critiquer aussi tout plein d'illusions qu'on peut avoir, en fait, dans cette brochure-là, les barricades renversées, qui a fait preuve, à mon sens, d'un énorme sens critique, malgré que on peut pas se cacher que c'est clairement partisan, sauf que c'est pas complaisant comme brochure. Je peux vous dire que c'est quand même critique comme pamphlet, et c'est super intéressant à lire. Comme une autre critique qu'on peut avoir, ça peut être d'idéaliser l'organisation autochtone. L'organisation autochtone qui, comme on peut le supposer parfois, est spontanément horizontale. Mais on peut voir que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc non plus. Donc, c'est super, c'est une publication qui est super intéressante. Je vous invite à lire « Les barricades renversées, la rébellion de Oaxaca, ses victoires, ses défaites et ses répercussions au-delà des frontières ». Donc, comme je l'ai dit, personnellement, en lisant cette publication-là, j'ai appris comment est-ce que certaines organisations peuvent noyauter des instances populaires à leur bénéfice et au détriment de mouvements populaires. Aussi, c'est quoi les formes de résistance face au gouvernement, puis aussi un peu rompre avec l'idéalisation qu'on peut avoir de certains épisodes qui peuvent être certes enthousiasmants, mais qui devraient faire développer notre sens critique avant tout. Donc, cette publication est disponible, bien sûr, à l'Insoumise à Montréal et à la page noire de Québec de Librairie anarchiste. Et si vous avez l'occasion de passer une soirée où est-ce qu'on va être présent avec un kiosque, on va certainement avoir cette publication-là, Les barricades renversées. Sinon, on vous invite à aller lire le texte sur collectivereinventions.org. Dans le fond, ça a été écrit en anglais originalement. Et la publication des éditions Rupture en est la traduction, entre autres. Donc, bonne lecture. Et sur ce, Guillaume?
On va l'écouter, Mental de Vietcong du groupe IAM.